des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, on parle des hommes et ils sont en crise, les hommes. À cause de quoi? C'est selon. Les deux écrivains que nous avons réunis aujourd'hui, en tout cas pour une nouvelle rencontre, un nouveau dialogue d'œuvre à œuvre, ont leur petite idée sur la question. Ils en posent bien d'autres dans leur roman, plein de bruit et de fureur pour l'un, de douceur pour l'autre, mais est-il encore temps d'être doux quand arrive la nuit des chasseurs et quand les balles sifflent? Faudra-t-il prendre la tangente? C'est la tentation. S'en aller par les routes en effaçant son couple? Certes, mais pour aller où? Et à la fin du chemin, la grâce peut-elle montrer le bout de son nez? Bonjour Luc Lang.
Bonjour.
Bonjour Sylvain Prudhomme.
Bonjour.
Luc Lang, Le bruit et la fureur, c'est pour vous. Est-ce que ça vous va?
Oui, d'autant que c'est une référence à Faulkner.
Voilà.
Donc, ça me va tout à fait, oui.
On parlera un peu de sanctuaire, peut-être, tout à l'heure. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, dont 1600 ventres sur le chef cuisinier d'une prison sous Thatcher, fou de sexe et de Shakespeare, qui avait obtenu le prix Goncourt des lycéens en 1988. La Tentation, votre nouveau livre, est publié chez Stock. Il s'ouvre sur la traque d'un cerf. Magnifique, dans les forêts, vers l'Iseran, c'est en Savoie.
Oui, c'est ça. Pas loin de la frontière italienne.
Voilà, un magnifique cerf à 16 corps, c'est très rare.
Oui.
Voilà, c'est une apparition qui se tient, je vous cite, « puissant, campé dans une splendeur héraldique, les sabots enfouis dans une flaque de neige, la tête tournée de son côté avec une sorte d'affectation, tournée de son côté, du côté du chasseur, comme s'il regardait la mort en face. » J'aime beaucoup la splendeur héraldique. Le chasseur a tiré, il a blessé l'animal, il part à sa recherche, mais il ne l'achève pas. Il l'emmène dans son relais de chasse, le soigne et le rend à la nature, réparé. Ce chasseur est en effet chirurgien, il s'appelle François, c'est un notable lyonnais. Et son monde s'écroule et il voit l'écroulement de son monde à travers ses enfants et son épouse. Alors commençons par l'épouse, mystique, très inflammable sur le plan sexuel, elle sillonne les couvents et prend son fils pour Jésus, car pour elle c'est la réussite matérielle qui compte. Et c'est étonnant pour une femme capable d'aussi puissantes crises mystiques. Les enfants ensuite, alors il y a le fils, Mathieu, qui a abandonné ses études pour devenir trader à New York, loin des valeurs que le père avait pu croire lui inculquer. Et puis il y a la sœur, Mathilde. Elle semble être sur la bonne route jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'un homme d'affaires assez troublé et sorte elle aussi des clous. Et les clous... J'utilise évidemment le registre christique parce que c'est très très présent dans votre livre, Luc Lang. D'ailleurs, ce fameux week-end de chasse, c'est pendant le week-end de la Toussaint. Et quand il est en train de chasser, ce chasseur, il aperçoit justement Mathilde avec un homme qu'il ne connaît pas. Et très vite, elle va arriver avec cet homme qui a été blessé par balle, qu'il faut soigner, qu'il faut cacher, qu'il faut peut-être exfiltrer. Mathilde est donc sous l'emprise de ce père. François pourrait tuer cet homme. Que fera-t-il? Eh bien, vous le verrez quand vous lirez ce livre. Sachez qu'il y a quelques orages, notamment un orage de coups de feu, l'irruption d'une violence digne de l'apocalypse, encore un terme emprunté au texte religieux. Ce qui est très beau dans ce livre, Luc Lang, outre la tension que vous mettez dans ce récit d'éclatement d'une famille, c'est que la famille, précisément, n'est que le miroir d'une crise beaucoup plus profonde, plus vaste. Celle des valeurs d'une certaine, on pourrait dire, bourgeoisie traditionnelle, libérale, portée sur la culture et qui voit qu'elle n'intéresse plus grand monde, cette culture. Est-ce que c'est l'apocalypse ou est-ce que ce n'est que la fin de son monde à lui?
Ça, je ne sais pas. À dire vrai, le monde qui monte contient peu de promesses, si j'ose dire. Hein, à part celle d'un enrichissement démesuré et hors échelle humaine, et les désastres sociaux que l'on connaît et les désastres écologiques que l'on connaît, c'était important que François soit quelqu'un de qui a réussi d'un point de vue professionnel, parce que si j'avais pris un personnage d'une classe ouvrière, enfin en tout cas modeste dans son inscription sociale, on aurait pu imaginer que c'était juste un conflit générationnel Et le fait que c'est quelqu'un qui a parfaitement réussi dans son monde, c'était aussi une façon de montrer qu'effectivement, c'est le monde tout entier qui disparaît, qui va disparaître. Et ce monde tout entier va emporter tout le monde, y compris ceux qui étaient les grands bourgeois de cette période, de cette culture. Et donc, effectivement, il y a la bascule d'un monde. Et ce qui m'intéresse toujours quand je mets en place, y compris des situations et des tragédies familiales, c'est de voir comment ils peuvent incarner en même temps des forces de la société et des images sociales fortes. Et effectivement, ce que François découvre à travers ses enfants, ce n'est pas seulement une espèce de trahison. En découvrant justement l'altérité, hein, moi c'est le combustible du livre, c'est comment nos enfants devenant des adultes, nous sommes confrontés à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre absolument, c'est-à-dire découvrant d'un seul coup dans ces adultes autre chose que nos enfants. Et comment ces enfants devenus adultes se mettent à incarner ce qui monte, et ce qui monte annonce non seulement effectivement le vieillissement et la prochaine disparition de François, mais aussi la disparition de son monde tout entier.
Altérité aussi chez vous, Sylvain Prudhomme. J'ai dit la douceur, le bruit, la fureur pour Luc Lang, la douceur pour vous. Est-ce que ça vous va ?
C'est vrai qu'en en lisant le livre de Luc, j'étais impressionné par effectivement. Je trouve l'expression de bruit et de fureur correspondent bien à toute cette. Et je me disais, mon livre est par contraste est incroyablement
En surface,
calme ou enfin j'ai cherché ça par rapport à d'autres livres où j'avais beaucoup plus de personnages, des événements plus tragiques ou des j'aime toujours me centrer sur des moments de bascule, des moments de...
Oui, parce que ça vacille aussi chez vous.
Voilà, mais ça... Mais...
Ça s'appelle Par les routes. C'est publié dans la collection L'Arbalète, chez Gallimard. Et j'en dis un mot quand même. On y découvre Sacha, qui vit une crise de la quarantaine, comme on dit. Il est écrivain, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il est donc absolument libre, mais il en veut plus. Il veut changer d'air, il veut être seul. Alors il part dans le sud, à V, la ville n'est pas précisée, pour donner corps à une sorte de projet schumpeterien, diraient les économistes. Destruction créatrice, d'ailleurs ils prononcent le mot, destruction, reconstruction. C'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. Un programme d'écriture, un programme de solitude. Là, je compte beaucoup, il a 40 ans, il le définit ainsi, le terrain qu'on avait en soi, la force d'explorer, l'envergure du monde qu'on était capable d'embrasser, on les a reconnus désormais. La moitié de notre terme est passée, la moitié de notre existence est là, en arrière, déroulée, racontant qui nous sommes, qui nous avons été jusqu'à présent, ce que nous avons été capables de risquer ou non. Et en fait, paradoxalement, celui qui voulait être seul retrouve à V un ami de jeunesse, son ancien coloc, qui a une passion étrange depuis sa jeunesse et qu'il n'a jamais abandonné, il fait de l'autostop. Alors qu'il a une femme et un enfant, il quitte régulièrement le foyer familial pour faire de nouvelles rencontres, c'est son espace de liberté. Découvrir de nouveaux lieux, maintenir l'espace nécessaire pour se forger de nouveaux possibles. Est-ce que l'autostoppeur a réussi ce dont peut-être Sacha rêve, lui aussi, en ayant raté? C'est ce qu'on découvre dans ce livre. On y découvre aussi Marie, qui est la femme de l'autostoppeur, qui s'appellera l'autostoppeur, toujours.
Oui, j'avais envie qu'il soit surtout défini par cette façon de s'en aller, par cette force qu'il pousse.
Voilà. Il n'a pas de nom.
Par ce désir, oui, il n'a pas de nom.
Il n'a pas de prénom. Marie, elle, donc en a un, sa femme, donc il a un petit garçon qui s'appelle Agustine.
Ouais.
Et en fait, donc Sacha veut changer d'air, l'autostoppeur, on pourrait dire, veut changer d'air A-I-R-E, il est question beaucoup d'air, d'autoroute, de ces lieux un peu intermédiaires. C'est aussi un reportage d'ailleurs sur une France, je dirais la France des ronds-points, que des stations essence, des zones rurbaines entre la ruralité et la ville. Alors que va-t-il se passer? L'écrivain se rapproche de la femme, et je vais m'arrêter là, elle est traductrice de l'italien. Il y a une italienne chez vous, Luc Lang, d'ailleurs, qui s'appelle Maria.
Oui, Maria.
C'est Marie. Voilà. Il s'installe chez eux, une sorte de coucou amoureux. Et puis, il sera question d'une fameuse chanson de Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Cette chanson où un ami écrit à son ami et qui se termine par sincerely, sincèrement, avec cette phrase que je traduis, je suis heureux que tu te sois trouvé sur ma route. Il sera d'ailleurs question, j'en dévoile pas plus, mais d'aller à Orion. Orion qui est le chasseur dans la mythologie, Luc Lang.
Oui.
Donc on retrouve un peu aussi ce motif de la traque, de la chasse, de la fuite aussi en avant. Je voudrais vous poser la même question qu'à Luc Lang, Sylvain Prudhomme. Ce personnage est apparemment libre, apparemment rimbaldien, apparemment dans l'acte de volonté de partir. Est-ce que son monde à lui n'est pas aussi en train de se fissurer au fond?
Oui, disons que moi j'ai des effectivement les personnages de mon livre sont tout à l'heure Luc parlait du fait que c'était François était en avait une réussite sociale très très manifeste. Là c'est des personnages qui sont plus en marge en fait du monde. Moi souvent c'est dans ce genre de décor que j'aime bien aller chercher. Enfin là c'est il y en a un qui fait de l'autostop, l'autre qui écrit. Ils habitent dans une petite ville qui est assez loin de Paris, donc ils sont à l'écart un peu du cœur de ce qui est dominant disons dans le monde, mais voilà, ça leur autorise aussi une sorte de liberté. Et ce personnage, est-ce que son monde fini l'autostoppeur, il est d'emblée comment dire d'un monde qui
on sent qu'il y a le malaise en fait.
Voilà,
ça a l'air d'être quelqu'un d'absolument libre, se mêle de vent, qui fait ce qu'il veut, en plus sa femme est tout à fait d'accord pour le laisser partir parfois quand même plusieurs semaines. Ouais. Il revient quand il veut. Et en fait, derrière cette liberté, on découvre quand même peu à peu un certain nombre de fêlures et de dérisoire.
Oui, on parlait de la douceur. C'est sûr que c'est un livre qui est à la fois doux et qui, je pense, va creuser dans des... Enfin, il y a une violence de ces départs sans cesse, de cette liberté, de l'affirmation de cette liberté. C'est cruel pour ceux qui restent. Donc ce personnage, d'emblée, il est anachronique d'emblée, il le sait. Enfin, moi, ça m'intéressait justement d'avoir un personnage comme ça dans le monde d'aujourd'hui, parce que le livre se passe absolument dans le monde d'aujourd'hui. Un personnage qui, de façon presque archaïque, se déplace en stop, se déplace.
Un Wanderer, comme
voilà,
on dit.
Voilà. Et avec, parce que du coup, ça vient interroger notre monde.
D'ailleurs, on pourrait commencer par ça, parce que dans vos deux romans, vous parliez d'archaïsme. C'est un joli mot, archaïsme. Mais arché, c'est le principe, c'est le début. Il y a la figure du chasseur, figure motif antique, mythologique, s'il en est, pas seulement, mais quand même. Et puis l'errant, la figure de l'errant, qui soit un autostoppeur de station-service en station-service, ou un chasseur avec une lunette Zeiss absolument formidable. Ça vous intéresse à la reprise justement de motifs qui ne sont pas contemporains, qui sont en fait éternels quand vous écrivez des romans?
Chez Sylvain, je me demandais si on pouvait parler de nomadisme ou d'errance. Et je pense que c'est plutôt l'errance, non?
Oui, c'est plutôt l'errance, je pense. Enfin,
c'est pas un nomade, en fait.
Oui, il essaie de s'abandonner à l'instant, enfin, d'écouter. Ouais.
Mais disons que pour manifester, pour mettre en scène le fait que d'un seul coup, il n'arrive plus à tirer, puisque, en fait, c'est un personnage sur la ligne de crête, à savoir qu'il est tout le temps en train de faire des gestes décisifs, c'est-à-dire, en tant que chirurgien, il fait des gestes décisifs du côté de la vie, et en tant que chasseur, il fait des gestes décisifs du côté de la mort. Donc, c'est un personnage qui passe son temps à faire des gestes qui ont des conséquences absolument irréversibles. Et c'était important pour mettre en scène ce moment de bascule où, d'un seul coup, il n'arrive plus à tirer, de mettre en scène un chasseur, en fait, tout simplement. Ouais.
Et chez vous, cet errant, cette figure de l'errance, alors?
Ça m'intéressait comme métaphore du désir sans cesse renouvelé, désir de repartir, désir de rencontrer, avec la violence et la part d'énigme aussi que ça a pour les autres. En fait, le désir, toujours quand on y assiste de l'extérieur, à la fois ça déclenche de la fascination, de l'admiration, en même temps de l'envie. Enfin,
parce qu'il musait, en fait, voilà, 20 ans après, en le retrouvant, il ressent très très vite la même usure, en fait.
Exactement.
Ce désir qui sera... Alors justement, je voudrais qu'on parle de la crise, du motif de la crise. Parce que vos deux romans me semblent marqués par la crise. C'est-à-dire le moment du jugement, le moment de la bascule étymologiquement. Crise chez ce chirurgien chasseur, hein, puisqu'il voit, on l'a dit, vous l'avez expliqué, le monde qu'il aimait se déliter sous ses yeux, et en plus à travers le miroir de la famille. Et crise aussi parce que rien n'est expliqué de ce désir de fuite, alors même qu'il a un point d'ancrage qui est une famille, votre personnage Sylvain Prudhomme. Est-ce qu'écrire un roman, je pensais à une phrase de Zola dans le roman expérimental, un texte de 1880. Nous autres romanciers, nous sommes les juges d'instruction des hommes et de leurs passions. Est-ce qu'écrire un roman pour vous, c'est émettre un jugement sur l'époque, par exemple, sur les mœurs de l'époque? Est-ce que c'est mettre le doigt sur une crise et peut-être, du moins la dire, peut-être tenter de la résoudre?
Moi, c'est absolument pas, en tout cas, de juger des personnages ou de juger une époque, ou alors, enfin, ça on le fait peut-être très implicitement, mais en tout cas, je souscris absolument à cette idée que c'est au moment de crise, en fait, qu'on s'intéresse, c'est autour de la crise qu'on construit tout entier le roman, parce que dans la crise se décide une infinité de choses qui étaient là en germe. À partir de cet instant de la crise, on peut esquisser tout ce qu'il y avait avant, on pressent aussi tout ce qui va venir après. La crise, elle est préparée depuis des années par des choses qui couvent. Et donc, moi, je crois
beaucoup... Chez les personnages, dans le désir de l'écrivain.
Ah non, alors là, il faut que les deux. C'est mieux si les deux se rejoignent. En fait, c'est bien sûr qu'on s'intéresse à des crises de ces personnages qui ont des échos chez nous. Mais comment dire, oui, moi, je suis persuadé qu'il faut. C'est ça que peut la littérature, c'est essayer de descendre dans la crise, dans l'intensité de la crise, dans le sans la surplomber, sans l'expliquer, sans la gloser, mais en la faisant revivre et en essayant de comprendre toutes les ramifications qu'il a construises, quoi.
En fait, le jugement appartient au lecteur. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la littérature, effectivement, n'est pas du tout faite pour faire jugement, parce que ce serait s'arroger je ne sais quelle légitimité, enfin, qui n'est pas celle de la littérature.
En même temps, l'écrivain est le dieu de sa fiction.
Oui, mais je trouve qu'on est écrivain pour se taire, en fait. Donc, c'est l'écriture qui parle, et elle fait vivre la crise, effectivement. Et le roman offre au lecteur, à la lectrice, l'expérience de la crise. L'expérience de la crise qui ramène à la sienne, si tant est qu'on soit en crise, mais en tous les cas fait vivre la crise et détermine le lecteur ou la lectrice à prendre des positions et à avoir éventuellement des jugements. Mais sinon, effectivement, on devient porte-parole de je ne sais quelle démonstration, et c'est vraiment pas, pour moi, comme pour Sylvain, je crois, c'est pas du tout la fonction de la littérature.
Mais cette phrase de Zola, nous sommes les juges d'instruction des hommes et de leurs passions.
Oui, là non, je...
Vous ne souscrivez pas.
Non, je ne souscris pas.
Vous avez dit, on est écrivain pour se taire.
Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer cette...
Parce que quand vous passez 3 ans sur un texte, évidemment, la densité de l'écriture n'a rien à voir avec le caractère volatile de la parole. Et on est extrêmement, dérisoire dans la parole. Et le texte, que le texte.
Ouais.
Et évidemment, là, on devient très maladroit par rapport à ce travail dans le retrait et l'ombre qui est celui de l'écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, il faut que s'il y a un centre de gravité du sens dans un livre de littérature, le centre de gravité du sens, il est déporté du côté du lecteur. Oui. En tout cas, je pense que c'est la poétique contemporaine du roman, c'est celle-là. Celle du 19e siècle n'est pas la même, ça c'est sûr. C'est pour ça que je ne me reconnais pas dans Zola, même si j'ai beaucoup de respect pour cette littérature-là. Mais,
oui, notamment la littérature américaine, dont on parlait avant de commencer cette émission.
Absolument.
On le dira peut-être, mais on parlait de McCarthy, Cormac McCarthy, qui est très présent, d'ailleurs, dans le livre de Sylvain Prudhomme, carrément noté, parce que le personnage le lit, et chez vous, en creux, parce qu'évidemment, il y a ces images de nature, McCarthy ou quelqu'un comme Tom Wolfe, ou quelqu'un... Ils en reviennent, eux, ils citent Balzac et Zola en permanence. C'est le roman 19e. Vous dites que la poétique, disons, du roman français se démarque de celle du 19e.
Ah oui, mais je crois que la littérature américaine aussi s'en démarque complètement. Moi, je suis un fervent lecteur de McCarthy, dont je rends hommage dans le précédent roman Au commencement du 7e jour. Effectivement, c'est proposer un monde, et c'est ouvrir à un monde où il se passe des choses, et ces choses augmentent la vie du lecteur, et en augmentant la vie du lecteur, il y trouve son sens, dans le meilleur des cas, il y trouve sa vérité, et il a éventuellement un jugement. Mais nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de vivre, en fait, tout simplement.
Oui, ce qui est
Sylvain Prudhomme,
chez McCarthy, par exemple, ce qui nous frappe tous les deux, en tout cas, moi, ce qui me marque énormément, c'est sa façon de raconter une action après l'autre, comme ça, en posant... même si un personnage va attacher un cheval à un arbre, on vous montre le personnage en train de prendre la corde, d'avancer, de faire quelques mètres, de tourner autour de l'arbre.
Ouais.
Enfin, et c'est seulement à la fin qu'on comprend qu'il a attaché le cheval. Et je pense que c'est ça que... quand on parlait de la crise, c'est ça qu'on peut essayer de faire, c'est de raconter comment petit à petit on s'avance dans tout un moment critique de la vie, un deuil, un départ, le début d'une histoire d'amour, une rupture, enfin, et comment est-ce que nous, avec la myopie aussi qui est celle de la vie, parce qu'on est dans l'expérience, on n'est pas, à aucun moment, on a la préscience de ce qui va se passer, et ben, comment ça se passe en fait? C'est juste ça, comment ça se passe?
Et il employait un verbe essentiel, Sylvain, tout à l'heure, il a dit descendre. En fait, on descend dans la crise, on descend dans l'épaisseur des choses, et dans l'épaisseur des choses où on est noyé, précisément, le lecteur va vivre cette expérience-là. Et lui, c'est lui qui définira peut-être un jugement.
Je fais penser au scalpel de votre chirurgien, qui descend, qui doit descendre
dans la
plaie.
Dans les chairs,
exactement.
Dans la plaie.
Et le lecteur, Sylvain Prudhomme, un mot là-dessus, Luc Lang disait, voilà, c'est au lecteur, s'il veut faire le jugement, le fait, pas à l'auteur. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du lecteur, justement, par rapport à cette image de l'action en train de se faire. C'est lui qui doit compléter le...
Oui, qu'en tout cas, lui se fasse son avis sur les personnages, exactement comme dans la vie, en fait, où les gens qu'on a autour de nous, on les perçoit pas de la même façon, on préfère certaines personnes à d'autres, et je trouve que c'est bien si le lecteur se retrouve dans la même situation. Là, moi, j'ai essayé ça particulièrement dans ce livre, que j'ai laissé assez ouvert dans la... l'idée qu'on peut se faire. Je sais qu'il y a des gens qui détestent, qui trouvent que l'autostoppeur est très agaçant. D'autres qui trouvent qu'en fait, il faudrait vivre comme l'autostoppeur. Ça me réjouit. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il était choqué. Il trouvait que la chose choquante, c'était que Sacha vienne comme ça piquer la place de l'autostoppeur. Moi, j'ai jamais envisagé que Sacha, ça puisse être choquant, ce qu'il fait.
J'ai dit que c'était un coucou.
Voilà, un coucou. Très bien. Moi, je trouve qu'on est.
C'est son ami, quand même.
Ouais, je trouve que ça doit être on a des faits devant nous qui sont racontés et le lecteur, ça résonne avec sa vie à lui.
Donc l'auteur pose les questions.
Oui, c'est surtout pas le surplomb, c'est surtout pas le point de vue dominant. C'est au contraire la manière de descendre dans les choses, dans l'épaisseur du monde. Et le lecteur traverse cette épaisseur du monde et se constitue, lui, en sujet éventuellement en juge de ce monde.
On continue avec vous, Sylvain Prudhomme, Luc Lang. Sylvain Prudhomme publie Par les routes, c'est chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Luc Lang, La Tentation, c'est chez Stock. On commence avec vous, Luc Lang, et on écoute votre choix musical. Vous avez choisi l'aria de La Passion selon Saint Matthieu de Bach. Erbarme dich.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
La Passion selon Saint Matthieu de Bach, Erbarme dich, c'est le choix de Luc Lang qui publie La Tentation, c'est chez Stock. Il est avec Sylvain Prudhomme qui publie lui Par les routes chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. C'est pas étonnant ce choix quand on a lu votre livre Luc Lang, La Tentation, puisque la foi, la question de la grâce, la question de la pitié y est absolument cruciale, sans faire de... Mauvais jeu de mots. Pourquoi avez-vous choisi de nous faire écouter cet après-midi Erbarme dich, c'est-à-dire en allemand, aie pitié.
Oui.
Erbarme dich, mein Gott, mon Dieu. Parce qu'il est athée, en fait.
Oui, il est athée, mais il écoute beaucoup de musique sacrée dans sa voiture et il se demande d'ailleurs si la foi est constitutive de cette possibilité de faire des œuvres aussi magnifiques. Et ça le constitue, c'est-à-dire ça le met dans un état de grâce qui relève pour lui probablement d'une intuition de ce que peut être le sacré. et il est dans une espèce de stupéfaction devant... Mais il trouve dans cette musique sacrée probablement l'expressivité de sa propre situation, puisqu'il est lui-même dans une situation de quête.
De rédemption, pourrait-on dire ? Je vous laisse réfléchir et je redis un mot pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Il s'appelle François, il est chirurgien, il est un chirurgien fameux. Il a de l'argent, il a de très belles maisons, il a une famille, notamment un fils et une fille. Une femme un petit peu aussi sujette, même beaucoup sujette aux élans mystiques, donc Herb Harmony aussi, mais qui est douée d'une âme maligne, hein, question de du mal. Aussi, elle passe son temps de couvent en couvent pour des retraites mystiques qui sont parfois des retraites érotiques d'ailleurs. Et cet homme sent que le monde qu'il connaissait, un monde où certaines valeurs étaient prépondérantes, notamment celle de la transmission de la culture, est en train de vaciller. Il le voit à travers l'évolution de ses enfants. D'un côté, un garçon qui s'appelle Mathieu, qui fait de la finance, hein, et qui ne s'intéresse absolument plus à ce dont son père lui parlait quand il était enfant. Et puis Mathilde, qui elle est un peu, je dirais presque en cavale, puisqu'elle est amoureuse d'un homme qui est blessé. Le roman s'ouvre par une scène, je vous demanderai de lire tout à l'heure, une scène de chasse. Puis François est en train de cibler un cerf magnifique dans la lunette de son fusil de chasse, extrêmement précis. Et il aperçoit sa fille avec un homme qu'il ne connaît pas et quelque temps plus tard, cette fille arrivera dans le relais de chasse avec cet homme qu'il s'agira de protéger, de soigner, de réparer. J'ajoute que François a réparé le cerf qu'il n'a pas pu tuer, qu'il n'a pas voulu achever pour le rendre à la nature. Donc il y a ce motif vraiment de la chasse, de la quête. On ne sait pas exactement vers quoi. Et ce motif de l'écroulement d'un monde. Donc je repose ma question. Oui. Quête de quoi pour François ? Que diriez-vous ?
Je pense que c'est la quête du sens, en fait. C'est-à-dire qu'il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne comprend plus ce qui se passe à travers ses enfants. Il ne comprend pas ce qui se passe avec sa femme dont il est toujours amoureux, avec lequel il a des rapports charnels très intenses. Et il ne la comprend pas plus, elle, qu'il ne comprend ses enfants. Et du coup, ça le ramène à sa propre existence et à se demander avec beaucoup d'effroi qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation de ses enfants qui lui permet de se retrouver confronté à une telle altérité et qui est une altérité qui organise son dépeçage et sa destruction. Et donc, il est un peu comme Jésus sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire il se demande pourquoi il est abandonné.
Pourquoi avez-vous choisi de multiplier autant les références justement au texte religieux? Je l'ai parodié, mais ce week-end de chasse se passe pendant le week-end de la Toussaint. Oui. Il est question de couvent, ça je l'ai dit. Le fils s'appelle Mathieu. La femme d'ailleurs dit « mon fils c'est Jésus ». Qu'est-ce que ça donnait comme coloration qui vous intéressait en tant que romancier? Cette surabondance même, cette présence de la grâce aussi qu'on cherche peut-être en vain.
Parce que probablement qu'il n'a plus de raisonnement, il n'a plus de substrat, je dirais, de pensée qui lui permette d'expliquer ce qui est en train de se passer, à savoir l'effondrement. Et qu'est-ce qui lui reste ? Il lui reste un recours à des valeurs ou à des sentiments qui relèvent de la morale. Et on sait bien que c'est la religion qui invente la compassion, la passion et la compassion, c'est la religion qui invente la charité, c'est la religion qui invente... Et donc, il est effectivement à recourir à des valeurs morales devant une espèce d'écroulement du monde qui est le sien et des valeurs qui sont les siennes, avec une espèce, chez ses enfants, une espèce d'indifférence à ses valeurs.
Plus que ça.
Oui.
Il y a même ce passage que j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on lit celui-ci ? Cela dit, voilà, je vais vous laisser, Luc Lang, lire ce passage.
Tu soignes la bête sur laquelle tu tires ? Ça peut durer longtemps. Et Mathieu s'esclaffa, imaginant sans doute la scène répétée à l'infini. « Laisse-moi travailler, tu veux ?» Le fils se racle la gorge, retrouve son calme, observant les mains de son père d'une dextérité déroutante. François lui avait expliqué un jour qu'il fallait penser les opérations comme des chorégraphies, parfaitement réglées, même s'il existait toujours une part d'improvisation. Les hésitations, les repentirs s'inscrivaient dans les chairs en autant de lignes brisées, rendant malaisée la cicatrisation. Sans parler de la perte sévère d'une souplesse des tissus, il y avait un fil des chairs. comme un fil du bois qu'il fallait suivre, presque sensuellement. Ces remarques dénuées pour Mathieu de sens et d'intérêt lui revenaient peut-être en mémoire au spectacle des mains de son père qu'il découvrait pour la première fois au travail. François nourrissait le vague espoir, le surprenant, attentif et silencieux. Et puis le portable de son fils sonna. Plus tard donc, il lui dira « Aujourd'hui, on ne gagne plus d'argent avec son métier, avec son travail. On le gagne avec de l'argent. » C'est de l'endogamie dégénératif, ton casino. Comment tu... Sans compter qu'avec la robotique et l'IA, la chirurgie bientôt, c'est plus tes mains qui vont travailler. Je suis désolé, papa, mais ton monde est obsolète.
Voilà, donc quand vous dites indifférence, on est quand même au-delà de l'indifférence. C'est véritablement une violence du fils contre le père. Il le voit pour la première fois en train de faire ce dans quoi il excelle. Parce que c'est un brillant chirurgien. Et il lui dit, les machines vont te remplacer.
Oui, c'est une dépossession, en fait. C'est un roman de la dépossession. J'aime beaucoup pour cela le Ventre de l'architecte de Peter Greenaway ou Drowning by Numbers, qui sont toujours des hommes qui sont dans une situation de dépossession par rapport à un monde qui bascule.
Est-ce qu'il est écrit, ce livre, aussi, Luc Lang, pour acter la fin du long processus de transmission entre les générations qui a, au fond, défini le monde tel qu'on le connaissait?
Je pense que si j'avais écrit ce livre 20 ans ou 30 ans plus tôt, j'aurais absolument pas pu écrire ce livre, en fait. Parce que je n'aurais pas imaginé, même si on m'avait affirmé que c'était ça qui allait se passer, je n'aurais pas pu imaginer un tel effondrement de l'ensemble des valeurs qui présidaient jusqu'à maintenant. Il y a que Gunther Anders, que je trouve est tout à fait prophétique et qui est capable de voir ce qui se passe dès les années 70. Et je n'aurais pas pu effectivement écrire ce livre. Et j'aurais sans doute écrit un livre qui aurait été sur probablement le conflit des générations. Mais pas du tout sur cette bascule-là et sur ce qui monte.
Il y a de très belles pages sur la nature, sur l'animalité, sur qui chasse qui. Vous faites par votre langue nous faire sentir justement les aspérités, la neige qui craque, le bois, même le crépitement aussi du feu dans la cheminée, l'encolure fauve et grise de l'animal, et puis en regard la technologie, puisqu'il le chasse quand même avec une arme qui ne laisse aucune chance d'ailleurs à l'animal, donc lui aussi dans une forme de rupture aussi avec le monde ancien.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que ce qu'il découvre, en fait, à travers la vision de sa fille dans cette voiture, il n'est pas tout à fait sûr que c'est sa fille, mais il pense que c'est sa fille dans cette voiture qui manque d'ailleurs d'écraser le cerf, qui traverse la route traquée par François. Ce qu'il découvre, en fait, c'est la fragilité. Alors, c'est la fragilité d'abord qui s'origine dans la pensée qu'il a pour sa fille, parce que son enfant, même si c'est une adulte, pour lui, c'est toujours son enfant et donc il a ce sentiment de fragilité envers elle qui se transmet à la fragilité qu'il a envers le cerf blessé. Et en fait, il se met à sentir que tout est fragile autour de lui. Sa fille, le cerf et puis au bout du compte, lui-même.
Ouais, et lui-même, et on va le voir sans dévoiler parce que c'est important, mais il y a des éléments de polar et même de, je dirais même de films d'action, de romans d'action, puisque le feu et pas seulement un seul fusil va apparaître dans ce livre. On parlait de Faulkner tout à l'heure. Il y a la phrase, on la connaît, la phrase de Malraux sur Sanctuaire de Faulkner. Il disait cette irruption de la tragédie grecque dans le roman policier. J'ai l'impression que chez vous, Luc Lang, c'est l'inverse. C'est l'irruption du roman policier dans la tragédie grecque.
Oui.
Un livre comme Sanctuaire a été décisif dans l'écriture de La Tentation.
Mais Faulkner, c'est quand même un maître qui m'accompagne depuis le début. Hein. Et dans la littérature américaine, il y en a plusieurs. Il y a Faulkner, Dos Passos et McCarthy. Dont on parlait tout à l'heure.
Donc, mettre du polar dans la tragédie. Ça, c'est l'idée s'imposait.
L'idée s'imposait là parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire... j'avais envie d'écrire une apocalypse quand même, et puisqu'il s'agit de la fin d'un monde,
il fallait la pluie.
Même si j'espère, ça n'est pas la fin du monde. Donc j'avais envie d'écrire cet apocalypse. Il y a et c'est à la fois évidemment McCarthy qui m'est venu à l'esprit à cause de Méridien de sang, mais aussi
et de la route.
Ouais. Ouais, bien sûr, de la route.
La fin d'un monde aussi.
Qui est la fin d'un monde. Ouais. Et aussi, évidemment, des références cinématographiques, à savoir Sacrifice de Tarkovsky, fin de Sacrifice.
Ouais. Bon. Le roman peut déstabiliser, bon, on aime hein, être déstabilisé, par sa construction. C'est-à-dire qu'il y a effectivement là, ces éléments de polar, d'action, de feu qui apparaissent, mais le roman est construit par une suite, en fait, presque comme un ressassement. En fait, des mêmes scènes. Comme si on revenait, et François revenait sans arrêt sur le métier, et on sent que vous êtes revenu aussi sur le métier. C'est-à-dire des scènes répétées, mais légèrement décalées à chaque fois. En quoi cette structure aussi était nécessaire pour raconter cette fin d'un monde et cette crise de François?
C'était, d'une part, d'un point de vue de l'architecture et de la structure, mettre le lecteur, la lectrice dans une situation... dans une situation d'enquête, dans une situation de construction du sens. Et donc le fait, mais c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire la manière dont on se souvient à différents moments du même souvenir. Et quand on revient au même souvenir, on n'y revient jamais avec la même coloration, puisque le présent n'est plus le même. Ou alors c'est à travers nos proches que d'un seul coup surgit le même souvenir et on voit bien qu'il n'est pas du tout coloré de la même façon. Et donc en fait, il y a tout un ensemble de strates du même souvenir qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui fait que le souvenir prend d'un seul coup une espèce d'épaisseur. Et là, je voulais absolument que dans la manière dont on revenait sur des scènes extrêmement importante dans la trame du livre, on y revienne comme dans un espèce de pivotement du point de vue qui fait qu'on avait d'autres éléments qui apparaissaient et qui, s'emboîtant les uns dans les autres, donnaient une espèce d'épaisseur. Mais on aurait pu, en fait, indéfiniment revenir sur les mêmes scènes. On aurait pu imaginer qu'il y ait 5-6 boucles.
Des boucles narratives. C'est ça la littérature pour vous, on le disait tout à l'heure, descendre, hein, d'ailleurs avec Sylvain Prudhomme, descendre, alors je sais, d'ailleurs dans quoi vous disiez, on descend dans quoi? Dans la crise, voilà, descendre dans la crise. Ouais. C'est ça la littérature, cet instrument de vérité, ce scalpel d'ailleurs, parce qu'il est chirurgien, qui permet d'affiner sans cesse la restitution du monde.
Oui, mais avec sans
une vérité.
Avec sans doute l'idée de s'y perdre aussi, hein. C'est-à-dire que on descend, mais on descend dans une telle épaisseur qu'on s'y trouve d'une certaine façon, comme disait Sylvain, noyé comme dans l'existence, où l'on est tout le temps dans un empirisme et dans une invention de chaque jour qui passe dans nos relations aux autres, et où on est sans cesse évidemment immergé. Il n'y a pas de moment où on dégage hein, une espèce de point de vue qui serait le point de vue de Dieu, qui nous permettrait d'enfin pouvoir écrire la vérité des choses.
On va continuer à descendre dans la crise avec une autre crise, c'est celle du personnage de l'auto-stoppeur qui est au centre de Par les routes, Sylvain Prudhomme. Vous adhérez à ce que disait Luc Lang sur Cormac McCarthy notamment?
Absolument, vraiment. Enfin non, sur le fait que ce point de vue surplombant divin n'existe pas dans la vie et qu'on n'a pas envie qu'il existe en fait dans la littérature. Enfin c'est vrai. Moi je descendre, on se demandait dans quoi. Je sais pas. Moi je trouve dans l'intensité des forces, des conflits intérieurs, de tous les déchirements, toutes les hésitations qu'il y a en chacun de nous, et aussi l'intensité de l'énigme que sont les autres. Je trouve parce que là, c'est très frappant dans le livre de Luc, et je crois que là-dessus, pareil, on se rejoint sur François, ses enfants sont inconnaissables, inaccessibles, enfin, et sans cesse lui reste opaque. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, que l'autostoppeur, on se demande ce qu'il fait partir, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'insatisfait, c'est pas quelqu'un qui n'en peut plus de sa vie, qui en a ras-le-bol et qui veut tout quitter parce que la vie de famille ne lui va plus ou qu'il est plus amoureux. Non, sinon ce serait facile. Enfin, ce serait un départ. Non, il est heureux en fait. Et pourtant, il veut encore plus. Mmh. Il veut être à tous. Et à partir de là, il y a un problème.
On va écouter.
Je voulais juste dire que c'est la crise de l'autostoppeur, mais c'est beaucoup aussi la crise de Marie en fait,
qui est l'épouse
de l'autostoppeur et qui a toujours aimé cet homme libre qui part. Elle a eu la liberté aussi.
Qui en aime d'autres aussi. Hein.
Voilà.
Elle a aussi une autre forme de liberté.
Voilà. Marie. Et elle va. Et elle. Comment elle. Pourquoi est-ce qu'à un moment elle l'aime plus en fait. Ouais. Et pourquoi. Ouais.
D'ailleurs, vous avez choisi Sylvain Prudhomme. On va parler de Par les routes. Nina Simone, The Other Woman. Donc l'autre femme, l'autre mari dans Marie. On l'écoute. C'est un live. On a trouvé le live. On a trouvé le live. Live à Town Hall.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. Oh, the other woman will always cry herself to sleep. The woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spend her life alone.
The Other Woman, vous avez reconnu la voix de Nina Simone, c'est le choix musical de Sylvain Prudhomme qui publie Par les routes à l'Arbalète chez Gallimard. Il est accompagné, cette heure du temps des écrivains, par Luc Lang qui publie La Tentation chez Stock. The Other Woman, on disait c'est une musique du soir et dans le livre, elle est citée, c'est le... ils font une fête en fait tous les quatre. Et c'est le premier contact vraiment oui, tactile, de peau à peau, entre Marie et Sacha.
Oui, alors il danse sur du Nina Simone, c'est sur Mood Indigo qui est une musique.
Oui, c'est pas celle-ci. Hein.
Voilà, mais effectivement, c'est toute une scène où le désir monte petit à petit entre eux. Enfin, ils se découvrent en dansant. J'ai choisi cette chanson. Parce que, bon, déjà, il y a ce calme, cette espèce d'élégance absolue, bon, qui chaque fois me bouleverse, mais il y a aussi toute la richesse assez fascinante de cette chanson. En fait, elle parle de l'autre femme, comme ça, qui est toujours parfaite, qui est toujours à la hauteur de ce qu'on attend d'elle, de ce qu'un certain ordre attend d'elle. Elle est toujours belle, maquillée. Et on sent que elle dit rien d'elle. C'est ce que je trouve assez bouleversant, c'est que, on ne sait pas qui elle est, mais on comprend par différence que elle n'arrive pas à toujours assurer. Quoi. Enfin voilà, toujours. Et je trouve que ça a beaucoup de rapport au fond avec. C'est la même chose qui me bouleverse dans cette chanson et dans le passage où Pierre tout à l'heure de la Passion selon saint Matthieu demande pitié à Dieu et lui non plus n'y arrive pas.
Herbarmedich.
Dieu lui avait dit tu me renieras et il avait juré que non et pourtant il renie. Et donc c'est surtout ces moments où on foire quoi, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais ça, je trouve que c'est des moments de vérité. Et là, en fait, il y a aussi cette question du dédoublement. En fait, on ne sait pas bien
dans la chanson. Avec The Other Woman. Voilà. Alors le dédoublement. Revenons quand même à votre livre, parce qu'il en est question aussi du dédoublement dans Par les routes. Donc dans Par les routes, en fait, on fait la connaissance d'abord de Sacha. Lui, il est écrivain, il n'a pas d'enfant. Il en a assez de la vie qu'il mène, il veut le grand air, la solitude, il veut écrire. Il part à V, dans le sud, dans le sud-est de la France. Et à V, il retrouve l'autostoppeur, qui n'aura pas d'autre nom que l'autostoppeur, qui était en fait un ami d'enfance, enfin un coloc même, c'était son coloc, et qui est toujours autostoppeur, puisqu'il s'appelle l'autostoppeur, qui continue alors qu'il est marié, qu'il a un petit garçon qui s'appelle Agustine, marié à Marie. Il continue à partir, parfois pour quelques jours, une semaine, faire de l'autostop. Alors, vous l'avez dit, qu'il est apparemment heureux, on ne sait pas trop quoi, il a besoin de cette liberté. Et en fait, peu à peu, Sacha, qui voulait écrire, c'est vrai que c'est un bon sujet de roman, d'ailleurs vous l'avez fait, Sylvain Prudhomme, s'installe chez Marie, s'occupe du petit garçon, et puis noue une relation, et on revient là à Nina Simone, puisque ça commence par ça, il danse, alors il y a Jeanne aussi, une autre fille aussi dans le coin. Et il noue une relation physique avec Marie. C'est un roman d'amour par les routes aussi. On dit c'est un roman d'amitié, mais c'est un roman d'amour aussi entre Sacha et Marie. Il y a très très belles scènes physiques d'ailleurs. Et avant de vous laisser la parole, je pensais à ce que vous disiez sur McCarthy où on a le personnage attache un cheval autour d'un arbre et à la fin on comprend. C'est un peu ça quand ils font l'amour, c'est-à-dire que chaque geste avec une sorte de fluidité, se noue l'un après l'autre pour être une scène d'amour.
Oui, c'est, disons que leurs gestes, leurs actes, souvent presque devancent la décision. Il y a plein de moments comme ça dans la vie où on comprend après coup que quelque chose est en train de se passer qui déplace.
Je vous laisse la responsabilité.
Je veux dire, dans toutes sortes de moments de la vie.
Et c'est drôle parce que plus je vous entends parler là, puis je pensais à ce que disait Luc et ça, vous êtes deux écrivains vraiment de la, et j'aime ça, c'est-à-dire où le geste, la pression, sans que ça soit jamais pesant, avec une sorte de millimétrage fluide, je sais pas comment dire ça, de l'action à chaque fois.
Les cinéastes ont de la chance parce qu'ils peuvent filmer des scènes pendant 10 minutes, un quart d'heure sans un mot, quoi. Et on comprend tout ce qui se passe.
Vous avez de la chance d'avoir des mots, non? C'est pas une chance d'avoir des mots.
En fait, on revient à cette histoire de Ster, c'est-à-dire que j'ai envie que les scènes soient vécues sans qu'on ait besoin de les dire. Et donc, on est là, nous, avec nos mots, en train d'essayer de nommer ce qui est en train de se passer, sans rien dire. Et donc, on est dans cette sorte de paradoxe d'écrire avec des mots sans jamais parler, quoi.
D'où effectivement le fait qu'on essaie de laisser beaucoup de choses en creux, enfin beaucoup de choses implicites. Effectivement, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on explicite, qu'est-ce qu'on laisse affleurer. Et c'est quand même, c'est souvent ça qui fait qu'un livre nous touche, c'est qu'on, il y a une, je sais pas comment dire, les choses ne sont pas trop appuyées. Enfin, on les comprend nous-mêmes petit à petit. Elles prennent corps devant nous et on se dit ah c'est en train d'arriver. Toujours ça paraît bateau balourd si jamais l'écrivain vient commenter ce qui est en train de se passer et dire. Regardez, en fait, c'est un personnage qui est drôle ou c'est un personnage qui est...
Ça faut éviter.
Voilà, ouais. On est... Mais,
que ce soit induit, quoi. Faut que ce soit induit.
Je voudrais qu'on écoute un passage de Par les routes. J'ai choisi un passage qui est très... C'est un moment de l'action, un moment du livre qui est magnifique parce qu'en fait, cette femme qui a toujours laissé son mari partir, donc c'est normal, hein, il revient à chaque fois, part à sa recherche et en fait comprend... À mesure qu'elle cherche l'absurdité, d'ailleurs, de cette quête, et même l'absurdité des départs de son mari. Une tendresse mêlée d'apitoiement, en fait, sur lui et sur elle.
Puis c'était de nouveau la plaine, les champs noirs, les congères éparses, les silhouettes déplumées de quelques arbres réduits à leur squelette. Les taillis, pareils à des bouquets de hampes échevelées, hirsutes. Le lierre vivace le long des troncs noirs, les boules de gui prospères aux branches exsangues, la terre partout saturée d'eau, l'herbe saturée d'eau, le bitume de la route saturé d'eau, jusqu'à l'air saturé d'eau, infusé lui aussi, pénétré de cette humidité lente, froide, muette, insidieuse. Je roulais des dizaines de kilomètres sans voir une silhouette humaine, sans rencontrer d'autres présences vivantes que celles des vaches prostrées, des brebis prostrées, des oiseaux prostrés. La nature entière comme désertée, basculer dans un froid décidément trop insoutenable pour que les humains s'y affairent encore. Tout le monde en fuit, couru se claquemurer derrière des murs confortablement chauffés, au coin d'un feu, sous une bonne couette, n'importe où, pourvu que ce soit au chaud. Les arbres et les bêtes seuls obligés de rester dehors, seuls obligés de demeurer à la merci de l'espace immense, d'endurer le froid, la pluie, la nuit, sans autre compagnie que ça et là de rares bâtisses oubliées elles aussi. Vieilles fermes à demi en ruine continuant de se dresser de loin en loin, solitaires, glacées, roidies par le thermomètre descendu trop bas, obligées elles aussi d'attendre, de se laisser travailler en silence par les champignons, les moisissures, le pourrissement inexorable de leurs murs et de leurs charpentes. Pauvre fille, je me disais. Malheureuse qui t'en va chercher un homme sur les routes comme un grain de sable au milieu du désert. J'ai pensé que chaque arbre, chaque plante, chaque bête, chaque ferme à demi effondrée, chaque hangar délabré, chaque sillon des champs était dans le même état que moi, réduit à sa structure intime, ramené à sa vérité. Je me suis senti avec le paysage une intimité que je n'avais jamais connue. Je suis arrivé à Zutphen.
Merci Sylvain Prudhomme. C'est un extrait de Par les routes et non sur la route, parce que c'est une sorte de carouac, j'allais dire au petit pied, à pied déjà, voilà, sans voiture. Donc là, c'est son épouse qui part à sa recherche et qui donc prend conscience de la vanité au fait de ce geste. Elle va le retrouver comme ça, pauvre autostoppeur avec sa pancarte, et il y a une très très belle scène ensuite, je ne vais pas la dévoiler, et une scène où il va être question de Kundera. Et ce qui est très marquant dans votre livre, c'est qu'en fait il y a une bibliothèque entière à l'intérieur du livre, c'est-à-dire que elle est traductrice, donc elle parle des livres qu'elle traduit, notamment Lodoli, c'est ça, cet écrivain italien du temps qui passe, McCarthy, on en a parlé tout à l'heure, Kundera, donc elle raconte un passage de Kundera sur deux, d'ailleurs, où il est question d'autostop, de deux amants, c'est ça qui se...
Oui, c'est la nouvelle, le jeu de l'autostop dans Risibles Amours. Mmh. Et c'est vrai que c'est une, enfin, ce qui m'intéressait, c'était tous les courts-circuits, que fait le désir, en fait, tous les chemins que ça emprunte. Là, c'est des personnages qui jouent au stop, qui font semblant, alors qu'ils sont en couple, de pas se connaître. Et ça crée beaucoup de...
Et ils se dédoublent, du coup.
Ils se dédoublent.
Ce qui pose des problèmes, parce qu'évidemment, voilà.
Ce qui m'intéresse, moi.
Ils font l'amour beaucoup mieux dédoublé que dans la vraie vie.
Voilà, et là, Marie, elle est dédoublée, elle essaie de jouer au joueur de l'autostop dans Kundera, sauf que lui ne connaît pas la nouvelle, et donc
Qu'est-ce qu'apporte Sylvain Prudhomme, cette intertextualité, comme on dit, cette présence d'autres livres dans votre livre, dans celui-ci en tout cas?
Ce sont des personnages, enfin c'est vrai qu'il y en a, il y a Sacha qui écrit, Marie qui traduit, donc ça fait partie de leur vie, ça fait profondément partie de leur perception du monde, en fait. Ils regardent le monde avec ces lectures-là, et donc ça les aide dans le déchiffrement de ce qu'ils sont en train de vivre, comme les livres qu'on a lus nous aident, comme ça, nous accompagnent à chaque instant de la vie. J'avais envie que ce soit... Là, c'est des personnages qui me ressemblent, sans doute, enfin, dans leur rapport à plein de textes, comme ça, qui... On habite dans tous ces textes qu'on a lus, en fait.
Et l'idée de l'autostop vient de Risibles Amours, ou...
Non, c'est plutôt après coup que je décide de jouer avec cette nouvelle, mais non, l'autostop vient du...
Parce que c'est très vintage, l'autostop, à l'époque de Blablacar et de...
Ouais, c'est volontairement vintage.
Et au des sens voitures...
C'est très différent de Blablacar, par exemple, parce qu'en fait, bon, Blablacar, bien sûr que c'est le covoiturage, c'est l'avenir et tout, mais c'est quand même très différent. On se choisit, il y a un intérêt partagé.
Il n'y a pas de hasard, a priori.
Voilà, on se donne rendez-vous. On peut même écrire des commentaires
ça
après
vous
coup
amuse,
sur
le clan.
Oui, l'algorithme, oui.
On peut même écrire après coup des commentaires sur celui qu'on a pris ou sur celui... Enfin, je veux dire, tout ça est très, très encadré.
Lui aussi, alors c'est assez beau. Alors, autre niveau d'intertextualité, peut-être, ça fait penser aux travaux d'Edouard Levé. En fait, il prend des photos des autostoppeurs qui le prennent, il envoie des cartes postales sur les noms. Alors, vous en avez prononcé un tout à l'heure, Zuitpen, il y en a plein comme ça, je disais Orion, tout ça. Il choisit aussi ses destinations en fonction des noms poétiques, ou pas du tout d'ailleurs poétiques. Et Edouard Levé, en fait, faisait ça. Je me souviens, il y a cette photo, vous connaissez peut-être, du village, l'entrée dans le village d'Angoisse. Voilà, où on voit ce panneau avec marqué Angoisse. En Dordogne. Il y a aussi tout ça derrière ce livre. C'était évidemment un travail conscient. Ces couches d'intertextualité artistique ou littéraire.
Oui, la question se pose toujours quand on a un personnage comme ça qui voyage et que c'est pas lui qui raconte. La question se pose de savoir comment faire exister tout ce qui passe dans ses yeux, tout ce qui est vécu par ce personnage qui est au loin. Je me suis dit qu'une façon de faire exister tous les possibles que sont les rencontres avec les automobilistes comme ça, sans cesse croisés, et ben c'était de faire qu'ils les prennent en photo. Donc Sacha, celui qui reste, et Marie, les deux qui restent, reçoivent sans cesse comme ça des images, des visages. Tout d'un coup, ça incarne les inconnus qui sans cesse sont rencontrés par l'autostoppeur. Et il y a pareil, les noms de villages, les cartes postales qui arrivent. Et ça fait comme des bouts du monde qui arrivent comme ça et qui rendent cet ailleurs désirable. Ouais. Sinon, on peut pas désirer quelque chose qui est sans contenu, qui est sans contour.
Il aurait pu devenir un artiste, en fait, l'autostoppeur. Oui, il aurait pu en faire une œuvre d'art contemporain, complètement, du mail art, etc.
Oui, il est tout près de ça, c'est vrai.
Il est tout près de ça. Hein. Ouais. Et c'est bon, on a presque envie que ça le sauve, ça. Cette possibilité-là.
Et ça changerait beaucoup parce que tout d'un coup, il ferait tout ça avec une finalité,
un rendu,
avec voilà. Tout d'un coup, il serait repris lui aussi dans une logique assez.
Ouais. Il serait collectionné par le fils de votre personnage, Luc Lang, qui adore l'art contemporain, alors que son père aime Giotto.
Voilà. Il spéculerait avec
l'autostoppeur.
Voilà, absolument.
C'est un livre, et ça m'a saisi aussi à la lecture de vos deux livres, Par les routes ou La tentation, sur le corps. L'autostoppeur, il a un point d'ancrage. Il a le corps de Marie, il a la famille. Le corps de l'animal aussi, chez vous, Luc Lang. Le corps de ses enfants, qu'il décrit quand ils étaient enfants et puis ce qu'ils sont devenus. Le corps aussi qui permet les gestes précis du chasseur ou de l'autostoppeur quand il doit arrêter une voiture. Ce qui est très étonnant dans cette errance, c'est qu'il y a un point d'ancrage et que précisément, tout va tourner autour du corps de Marie et Sacha, le coucou, va trouver aussi, lui, un point d'ancrage lié au corps de Marie. Quand je disais c'est un roman d'amour, la sensualité très présente, le corps, la chaleur du corps, la chaleur des amants, le lit. Au fond, à l'errance de l'autostoppeur s'oppose justement ce lit de l'amour, en fait. Le lit d'Ulysse, presque.
Ouais. Oui, et comment dire, Marie aussi a ce point d'ancrage comme lui échappe, en fait, et elle va le... C'est elle aussi qui va petit à petit le retrouver en Sacha, en fait, qui a la grande force d'être là. Oui, il y a tout un moment où le moment qu'on a lu là, où elle part, tout d'un coup, elle se fâche de cette situation. Pour se retrouver, elle a besoin d'aller errer à son tour. Et quand elle revient, elle est là pour de vrai. Enfin, elle est enfin là vraiment.
Vous avez prononcé, Luc Lang, le mot sauver. Vous auriez pu dire aussi réparer, puisque c'est un chirurgien. Votre héros qui répare les chairs et qui va réparer ce cerf qu'il a presque tué pour le rendre vivant à la nature. Donc il refuse de l'achever. Je pensais à cette phrase qui est devenue très très cliché, qui est la phrase de Kafka sur la littérature, qui serait censée être un livre, qui serait censé être une hache qui briserait la mer gelée en nous ou en le lecteur. Est-ce que, au contraire, la littérature, surtout dans ce monde que vous décrivez, l'un et l'autre, un monde qui vacille, un monde où on ne sait plus très bien où est le sens, est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt vocation à réparer? Est-ce que ça ne serait pas ça aussi, la littérature, une forme de chirurgie réparatrice?
En tous les cas, elle permet un recentrement, ne serait-ce que par l'acte de lecture. Elle permet un recentrement sur soi et elle nous constitue probablement en sujet. C'est-à-dire le temps de la lecture, c'est le temps du sujet, que ce soit le sujet du livre ou le sujet ou le lecteur ou la lectrice devenu sujet, puisque c'est eux qui sont les sujets du sens en fait, c'est pas le livre.
Et qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain Prudhomme?
L'idée qu'elle répare me je le sens pas comme ça. Je crois plus à la phrase de Kafka et je pense que ça peut peut-être faire du bien que ça nous fende. Qu'on soit tous un peu fendus par la littérature, ça peut faire du bien au monde, parce qu'en fait, ça nous enlève des certitudes, ça nous enlève ça complexifie notre regard sur les choses. Et à partir du moment où on met de la nuance, où on a cette écoute plus fine du monde, je pense qu'on a des chances de le vivre mieux, quoi, ensemble, quoi, enfin.
Merci Luc Lang, merci Sylvain Prudhomme. Merci. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Sylvain Prudhomme, Par les routes, c'est chez Gallimard dans la collection L'Arbalète, Chasseur. Et Luc Lang, La tentation qui s'ouvre par une scène de chasse magnifique, c'est chez Stock. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Tom Umdenstock, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Bruno Mourlan à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Luc Lang et Sylvain Prudhomme.